Bah écoutez, bonjour à toutes et à tous, et à mon tour de vous souhaiter également la bienvenue pour cette troisième journée de psychopathologie du sport. Alors vous dire très rapidement et succinctement que moi aussi je suis extrêmement heureux et honoré d'ouvrir le bal de ces troisièmes journées, et a fortiori en compagnie de trois illustres intervenants que le monde entier nous envie. Donc je vais vous représenter, même si puisque Serge l'a évoqué rapidement. Donc Madame Christine Campan, qui est vice-procureure du tribunal de grande instance de Bordeaux. Donc Serge Simon, qui est médecin, ancien rugbyman et coordinateur du centre d'accompagnement et de prévention pour les sportifs au CHU de Bordeaux. Et Fred Ebocco, qui est sociologue et politéologue à l'Institut de recherche pour le développement à Marseille. Accessoirement, ancien footballeur également. Donc l'objectif de cette première plénière, comme c'est un peu indiqué dans les différents programmes, ça va être d'évoquer de manière assez globale la problématique de la maltraitance, d'évoquer la question des limites entre ce qu'une société peut définir comme acceptable ou inacceptable, et d'évoquer également la relativité et la variabilité de ces limites en fonction des époques, en fonction des lieux, en fonction des milieux. Évidemment, c'est une question plus que vaste. Et d'ailleurs, M. Baron l'a évoqué, la diversité des spécialités, des fonctions des intervenants montre qu'on peut en plus l'appréhender sous des angles d'approche extrêmement divers. Donc voilà, une problématique très 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 vaste. Qui donc autant dire que nous n'aurons pas trop de deux heures pour en évoquer qu'une partie. Donc voilà, je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps, je vais immédiatement passer la parole donc d'abord à Serge Simon pour suivre l'ordre indiqué dans le programme, qui va nous parler de la limite entre bientraitance et maltraitance, une évidence fuyante. Puis nous écouterons Christine Campan qui, dans une approche plus juridique, nous parlera des différentes formes de maltraitance et les différentes formes d'approche juridique. Puis nous finirons par Fred Ebocco qui, dans une approche plus sociologique et politique et plus globale, nous parlera d'universalité et de spécificité des normes dans un monde globalisé. Voilà, je passe donc la parole à Serge, donc, et comme prévu, on écoutera les trois interventions d'une vingtaine de minutes chacune, et on gardera une petite demi-heure à l'issue pour les questions.
Merci Franck. Donc l'intitulé de mon propos, limite entre bientraitance et maltraitance, une évidence fuyante. Cela fait 10 ans que le CAPS travaille dans le champ mouvementé de la psychopathologie sportive. Ça fait 10 ans que, comme d'autres acteurs de ce champ-là, de plus en plus nombreux, nous avançons, non sans difficulté, sans effort, des idées contrevenantes au mythe sportif. Parce que le sport, panacée universelle, de tous les maux individuels et sociaux, ne souffre que très difficilement la critique, en tout cas la critique rationnelle. Parce que comme toutes les représentations sociales, elle a ses côtés obscurs, qu'elle tolère, et même qu'elle à son tour mythifie. Pour ça, c'est assez simple, ouvrez le journal de l'équipe, regardez la télévision, écoutez les radios, et vous trouverez sans difficulté les pans de ce monde qui sont offerts à la vindicte publique. Pour citer le plus évident, évidemment, c'est le dopage, véritable huitième péché capital, il ne laisse guère la place à la raison, là aussi, et au recul. D'ailleurs, après 10 ans de travail dans ce champ-là, de débats, de confrontations, de contradictions, ce sujet, le dopage et les réactions qu'il suscite, nous laisse encore, l'équipe du CAPS, pantois, comme lorsque Richard Gasquet, pris dans le cyclone médiatique, est brûlé en place publique par des commentateurs de tout poil, y compris ses propres pairs, alors que le fait reproché de s'être dopé, c'est-à-dire la prise consciente d'une substance ayant augmenté artificiellement ses performances, est tout sauf démontré, et que dans le pire des scénarii, il aurait sniffé un rail de coke dans une boîte de nuit de Miami, au milieu de ses pairs, écrit différemment, et peut-être pour augmenter d'autres performances que celles où il tient son manche habituellement. En tout cas, Le sport sanctuaire avec ses dieux, ses démons, nous a appris à prendre quelques distances avec l'émotion collective et médiatique que suscite ce genre de sujet. Et cette expérience de 10 ans nous a ancré dans l'idée que le sport est une société propre, à part, avec ses codes, ses valeurs, et qu'il faut observer donc avec une certaine distance. Cette posture nous a été utile pour aborder le champ que nous traitons aujourd'hui, la maltraitance de l'enfance. Car s'il est aussi un sujet où là aussi l'émotion impose un diktat, c'est bien celui de la maltraitance de l'enfance. Élargissons le débat, sortons du sport. Toutes les sociétés se construisent sur un socle de valeurs, de normes puissantes dont la transgression est de l'ordre de l'impensable et de l'intolérable. Parmi celles-ci, dans nos sociétés occidentales et de manière majorée depuis quelques années, se trouvent l'enfance, l'éducation, le concept d'enfant roi, l'enfant centre de nos sociétés, pour des raisons diverses et variées, dont le marketing d'ailleurs n'est pas la moins puissante. Ce concept a dressé des barrières puissantes autour de lui. Ces barrières ont imposé à ceux et celles en charge de son éducation un devoir d'excellence que le quotidien des médias leur déverse sans arrêt. Être parent, ou plus largement être en charge de l'éducation aujourd'hui, n'est peut-être plus aussi simple que cela ne le fut il y a quelques années encore. Car en tous les cas, ici et maintenant, dans ce référent-là, il ne s'agit plus d'être simple parent, mais d'être un bon parent, avec son cortège de paradoxes qui vont et qui viennent, comme avoir de l'autorité sans être autoritaire, négocier tout en se faisant obéir, être à l'écoute tout en se faisant respecter, être accessible et moderne tout en gardant la distance nécessaire à l'exercice de la fonction, être compréhensif mais contenant, être exigeant et supporter la Star Academy. De cette contrainte sociale de plus en plus prégnante d'une bonne parentalité s'est développé un corollaire explosif qui est celui de la maltraitance. Sujet médiatique et social, extrêmement sensible, la maltraitance est un champ difficile à aborder sans être poussé, bousculé par un consensus légitime mais extrêmement puissant. Toute prise de recul, de distance vis-à-vis de ce sujet sera vécue comme une transgression, à minima, tant l'émotion est grande. Pourtant, c'est bel et bien cette démarche que je veux entamer ici, non par seul plaisir de la polémique ou de la poussée contradictoire, même si 20 ans de rugby ont certainement développé certaines fonctions dans ce champ-là, mais plutôt parce qu'il nous semble qu'une perspective est nécessaire, ici plus qu'ailleurs, parce que le diktat médiatico-émotionnel peut être néfaste et préjudiciable. Alors en préambule, pour légitimer ce long propos, je tiens à réaffirmer que mes propos ne sont pas là, ne peuvent pas être assimilés à une tolérance suspecte, une acceptation de l'intolérable, que l'équilibre de l'enfant et son socle, l'éducation, sont des sujets essentiels qui nécessitent toutes les attentions et toutes les préventions, et qu'à ce titre, toutes les actions menant à débusquer les maltraitances et en général à améliorer les conditions de cette éducation sont à encourager et à développer. Cependant, avec l'expérience de terrain qui est la nôtre et l'apport de quelques éclairages sociologiques et ethnologiques, une réflexion est nécessaire afin de rendre encore plus efficace ces actions menées. C'est en tous les cas la philosophie qui a présidé à notre participation au vaste programme de lutte et de prévention contre le harcèlement et les violences sexuelles dans le sport, lancé courageusement par Madame la ministre Roselyne Bachelot en juillet 2007. Participation en tant que centre d'expertise, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, coopérateur de la première étude nationale sur le sujet, dont vous aurez la primeur des résultats tout à l'heure. Donc, je le disais tout à l'heure, rappelez-vous que les deuxièmes journées avaient pour thème déjà quelque chose qui s'apparentait à ce que nous faisons aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus large, puisque c'était des journées qui interrogeaient sur les normes de ce monde particulier et leur pendant, l'anormalité, à l'apostrophe anormalité, dans le sport. Les débats furent riches, vifs, et nous étions à peu près d'accord que le sport, ou plutôt les sports, fonctionnent comme des micro-sociétés évoluant d'après leurs propres codes, leurs propres normes, au détriment parfois du bien-être de leurs pratiquants, mais toujours au bénéfice de leur culture. Nous avions même personnellement avancé le propos que la stigmatisation intempestive de cette anormalité pouvait créer parfois plus de dommages que de bénéfices, à l'instar d'une structure névrotique paraissant dysfonctionnée mais en équilibre et qu'il faudrait respecter. La difficulté étant de garder un droit d'intervention nécessaire aux soins et un recul indispensable à la première des exigences du soignant, l'innocuité. Nous avons personnellement prolongé la réflexion et c'est sur deux nobles sciences cousines, voisines, et le président Thunon de Larrain l'a rappelé, géographiquement voisines, que sont la sociologie et l'ethnologie, que nous avons jeté notre regard de béotien. Et nos interrogations se sont vues légitimées par des concepts existants de longue date dans ces champs-là et nous rappelant certaines évidences. Le sport peut être donc, nous l'avons abordé l'an dernier, considéré comme une société à part entière. Ses propres codes et valeurs développent des comportements qui n'ont de sens que vis-à-vis de ses valeurs et ceux qui les acceptent et qui, pris de manière décontextualisée, peuvent être choquantes, voire même illégales. Par provocation, nous citerons la boxe, qui met en scène de manière magnifiée et extrêmement rémunératrice ce qui, en matière pénale, se nomme des coups et blessures volontaires. Alors, je vois qui opine du chef. Le docteur Allaire. Il y a effectivement d'autres sports qui mettent en scène ces choses-là avec des ballons, ronds ou ovales. Mais il existe donc bien des comportements inacceptables dans la société, sanctionnés par la société, judiciables, et acceptés dans un certain monde. Ce relativisme culturel est évidemment un des premiers constats lancés par, non pas constat dans le sport, mais de manière générale, relativisme culturel, par l'inventeur d'ethnologie, M. Claude Lévi-Strauss, qui s'interrogeait de la manière suivante. Et là, je vais le citer pour ne pas l'écorcher. Il faudra admettre que dans la gamme des possibilités ouvertes aux sociétés humaines, chacune a fait ses choix incomparables entre eux. Ils se valent. Mais alors surgit un nouveau problème. Car si dans le premier cas, nous étions menacés par l'obscurantisme sous forme d'un refus aveugle de ce qui n'est pas nôtre, nous risquons maintenant de céder à un éclectisme qui, d'une culture quelconque, nous interdit de ne rien répudier, fût-ce la cruauté, l'injustice et la misère contre lesquelles protestent parfois ces sociétés mêmes qui les subissent. Et comme ces abus se produisent aussi parmi nous, quel sera notre droit de les combattre à demeure s'il suffit qu'ils se produisent ailleurs pour que nous nous inclinions devant eux? Quel génie! Alors, je ne sais pas si Claude Lévi-Strauss était un grand sportif, mais en tous les cas, il nous a paru tout à fait justifié de profiter quelque peu de ces immenses lumières pour éclairer nos réflexions sur le sport. À considérer que le sport est donc cette société dans la société. À considérer que chaque discipline développe, avec plus ou moins de force, un socle de valeurs, de croyances et de pratiques propres. Il n'est pas impossible et impensable de les comparer à cette foultitude de micro-sociétés rencontrées par le savant au début du siècle dans la forêt amazonienne. Et il n'est pas inutile de se servir de ces concepts pour nourrir avec toute la modestie requise les nôtres. Bien sûr, il existe des différences importantes. Tout d'abord, ces micro-sociétés que sont les disciplines sportives sont intégrées à une macro-société qui les contient, qui les nourrit et s'en nourrit. Ce qui n'était pas le cas de ces petites tribus de quelques dizaines de personnes qui n'avaient d'échange avec les autres sociétés que lors de conflits guerriers ancestraux. Cette incarcération du sport dans une société le dépassant est un des critères majeurs, d'ailleurs, dans la justification du regard que nous portons sur les pratiques de ce monde sportif. Mais ce monde ne saurait bénéficier d'aucune extraterritorialité ni loi d'exception, madame le procureur, vice-procureur, au prétexte d'une culture propre, fût-elle extrêmement puissante. Cependant, je reviens à ma provocation tout à l'heure, souvenons-nous du cas de la boxe, et mesurons là une réalité tangible de notre capacité sociale à accepter une certaine dose de relativisme. Nous avons donc une situation différente de celle rencontrée par l'ethnologue avec une société autarcique, alors que le sport est une société incarcérée dans une macro-société, et nous sommes plus près de celle rencontrée, situation, par des consultations transculturelles, comme celle de Mana au CHU de Bordeaux, ou ailleurs décrites dans la littérature. C'est ainsi qu'il existe des situations pouvant se rapprocher de nos questionnements sur des pratiques placées dans le champ de l'éducation, et pouvant être interrogées si des regards extérieurs vinssent à se poser sur elles. Prenons des cas extrêmes et caricaturaux, que sont les mutilations corporelles. Si l'excision est combattue unanimement ici et de plus en plus fortement dans les pays où elle se pratique encore, des pratiques comme la scarification sont moins pourfendues. À n'en pas douter, ces pratiques profondément valorisées dans certaines cultures et donc constructeurs d'identité seraient légitimement condamnées s'il venait à un parent non issu de ces cultures de les pratiquer sur un ou plusieurs de ses enfants. Détachés de leur sens culturel, donné par l'environnement indissociable de la pratique, cela ne serait plus reconnu que comme une mutilation odieuse et maltraitante, passible de justice. Plus subtil encore sont les comportements éducatifs pouvant apparaître condamnables dans notre culture et tout à fait justifiés dans d'autres cultures. Ainsi, une étude canadienne montrait en comparant les systèmes éducatifs de familles nord-américaines, asiatiques et antillaises que, je cite, l'incompréhension mutuelle s'établit entre les intervenants sociaux et certaines familles immigrantes. Les premiers taxant de maltraitant les parents de ces familles qui utilisent les punitions physiques avec leurs enfants, pour de mauvais résultats scolaires par exemple, alors que les seconds, les intervenants, se sentent particulièrement, les parents, pardon, se sentent particulièrement justifiés d'y avoir recours. Pour les auteurs de cette étude, je cite encore, dans toutes les sociétés, la finalité éducative des parents est d'amener l'enfant à s'adapter avec succès à son environnement physique, culturel, économique et social afin qu'il y soit autonome, performant et qu'il y assure à son tour ses rôles d'adulte. Pour des anthropologues comme Levin, Ogbu, les objectifs et les pratiques parentaux constituent une réponse adaptée et fonctionnelle aux conditions écologiques, économiques et sociales des groupes humains. D'autres spécialistes soutiennent aussi que la plupart des modèles d'éducation proviennent des valeurs et des croyances dominantes au sein d'un groupe social. Les valeurs et les pratiques parentales ne seraient ainsi que le résultat d'une longue accumulation d'expériences encodées, transmises de génération en génération, bien que sans cesse modifiées au fil des événements de l'histoire, parce qu'elles ont démontré qu'elles permettaient d'adapter l'enfant aux exigences du groupe d'appartenance et à son environnement. Les auteurs définissent ici un concept de bien-traitance, qui ne serait pas simplement l'absence de maltraitance, mais qui serait l'ensemble des comportements éducatifs émanant des parents et de l'ensemble de la collectivité, en premier lieu de l'institution scolaire et de ses acteurs, destinés à adapter l'enfant de façon harmonieuse aux conditions de vie qui prévalent dans cette collectivité. Toujours pour eux, la maltraitance, tant physique que psychologique, à l'inverse, et l'ensemble des comportements éducatifs nuisant à cette adaptation, que ceci soit actif et extériorisé, violence, ou passif et intériorisé, négligence ou indifférence. Il est clair que pour tous ces auteurs, et certainement pour le grand Lévi-Strauss, le jugement d'une éducation ne peut se faire sans tenir compte de l'ensemble de l'écosystème dans lequel l'enfant évolue. Pour être encore plus clair, ce qui peut être considéré comme de la maltraitance, ici, sera de la bientraitance là-bas, et inversement. Même la traite à bout souffrance physique peut être ici infligée volontairement afin de donner à l'enfant la capacité de démontrer au groupe auquel il appartient son endurance et ainsi pouvoir être accepté par le groupe lui-même. Alors, voilà le cœur de mon propos, il est des comportements à combattre et des enfants à protéger, cela est incontestable. Cependant, toute intervention, tout regard dans un système culturel aussi puissant que celui du sport doit inévitablement tenir compte des spécificités culturelles de celui-ci afin de ne jamais s'écarter de son objectif, le bien-être des enfants. Et de se rappeler que ce qui peut paraître choquant ici ne le sera pas là. Pour être concret, certaines disciplines sportives ont des cultures basées sur l'endurance du mal, de la souffrance et la capacité à surmonter ces écueils. Des comportements vis-à-vis de ces enfants sortis de leur contexte peuvent apparaître pour certains comme totalement inacceptables et pourtant totalement acceptés par le milieu et par l'enfant lui-même. Alors que faire ? Reprendre à son compte le dilemme de Lévi-Strauss est oscillé entre, je cite, obscurantisme intolérant ou éclectisme s'interdisant tout jugement, toute réflexion, toute intervention au risque de tolérer l'intolérable. Une partie de la réponse est dans le droit fil de notre pratique clinique depuis des années. Car si le temps nous fait gagner dans la prudence, comme vous peut-être vous le mesurez dans nos propos, il nous renforce dans l'idée que la seule balise inamovible dans notre nuit éternelle d'ignorance est l'évaluation régulière et la plus neutre possible de l'équilibre psychique de l'enfant. Être là au long cours, à ses côtés, pour accompagner ce parcours difficile, douloureux, parfois incompréhensible, qu'est la vie d'enfant jeune sportif, et dépister le plus rapidement possible tout signe de souffrance inacceptable. Vous comprenez maintenant peut-être les précautions oratoires faites en début de propos, et je me sens encore obligé d'y revenir, tant le sujet est sensible. Il n'est pas la question de justifier l'injustifiable, mais simplement d'apporter des éléments de réflexion venant d'autres horizons, et permettant peut-être d'élargir la réflexion. Parce que l'objectif que nous menons est pratique. Si ces concepts sont empruntés peut-être maladroitement, et je m'en excuse, à d'autres sciences que celles qui nous ont formés, à savoir la médecine nous a permis de sentir depuis le début de notre aventure, dans le CAPS, que la stigmatisation comme déviance de comportements jusqu'alors acceptés et valorisés par un système clos comme le sport peut être générateur de souffrance et de désordre, à l'inverse de la démarche désirée. Effectivement, plus proche de notre formation, Piaget, le constructivisme, à l'origine lointaine des thérapies brèves de l'école de Palo Alto, reconnaît comme fondement la capacité de l'esprit humain à construire la réalité. Toutes les réalités. Alors à n'en pas douter, le jugement même déplacé d'une supposée déviance ne manquera pas de déclencher des réactions parfois incontrôlables et à l'inverse, de l'effet recherché dans le système jugé. Pour conclure, si nous considérons les points suivants, 1. Encore une précaution, il est nécessaire de traquer l'inacceptable, à savoir toutes les formes de maltraitance enfantine. 2. Que notre société déploie des moyens extrêmement importants pour arriver à lutter contre ce qu'elle considère comme de la maltraitance, au point d'en développer une espèce d'hypersensibilité explosive. 3. Que le sport est une organisation sociale possédant son propre système de valeurs renforcé dans chaque discipline. Et qu'à ce titre, comme le pensait de manière géniale Lévi-Strauss au début du siècle, il convient de replacer toujours le comportement étudié dans son écosystème global. Enfin, que l'esprit humain possède cette incroyable capacité à construire la réalité et ainsi finir par donner corps à ce qui n'existait pas. Nous pouvons conclure que la lutte contre la maltraitance est une cause juste, légitime, générateur d'un consensus absolu, qu'elle nécessite compétence et réflexion, qu'elle ne doit pas se laisser guider par la force et l'impériosité de la puissance du consensus social et médiatique, et qu'afin d'être efficace et toujours bénéfique dans ses actions, elle doit tenir compte des relativismes culturels dont la société sportive est un des exemples. Comme l'écrivait l'équipe canadienne qui a fait l'étude que j'ai citée un peu plus haut, seuls les différents acteurs dans une culture spécifique peuvent définir ce qui peut être considéré comme bien-traitance ou maltraitance dans cette culture et établir les balises qui permettent de ne pas franchir la mince ligne rouge qui les sépare dans des cultures différentes. Le moyen simple et infaillible de renégocier incessamment cette mince ligne rouge et d'en combattre les dépassements intolérables est d'assurer grâce à l'institution une présence compétente, indéfectible auprès de l'enfant afin d'évaluer encore et encore l'absence de tort et de souffrance. Mieux, d'évaluer la présence de signes d'équilibre et d'épanouissement. Cela s'appelle le bilan psychologique et c'est dans nos textes législatifs depuis 2004. Je vous remercie de votre attention.
Comme je dis, seulement on va garder les questions pour la fin. Donc,
ah d'accord, donc je prends le relais.
Tantan, je vous en prie.
Le relais tout de suite. La loi du 16 juillet 84 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dispose que ces activités constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Qu'elles contribuent évidemment à la santé des enfants. Leur promotion et leur développement, dit cette loi, sont d'intérêt général. Alors, bien évidemment, à travers ces deux journées, loin de moi l'idée de nier les bienfaits du sport, instance d'éducation et de socialisation. On sait que de très nombreux jeunes licenciés sont répertoriés chaque année, que la pratique sportive est encore plus importante au moment de l'adolescence, qui précisément est une période de vulnérabilité pour le jeune, de construction de soi, de ses repères, de quête de soi et de confiance, avec une volonté d'affirmation, d'émancipation par rapport aux parents. Et on voit que si pour le tout jeune enfant, la pratique sportive est dans un premier temps surtout l'occasion de rechercher une activité ludique, en revanche, au moment de l'adolescence, là, le sport et l'activité sportive recouvrent une autre dimension, avec l'intériorisation de la culture sportive, de la hiérarchie sportive et la recherche de la performance à ce niveau-là. Et c'est souvent à ce moment-là que l'on va, du côté judiciaire, observer la possibilité de développement de mauvais traitements essentiellement. Le terme maltraitance, qui est revenu déjà depuis la première intervention fréquemment, et curieusement, un terme apparu très tardivement dans la langue française en 1987. Il n'y a pas en droit de définition juridique de la maltraitance. Dans le code pénal, elle n'est absolument pas définie. On a pu observer une première définition qui avait été posée en 1981 par le Conseil de l'Europe, qui définit ainsi la maltraitance, les actes et les négligences qui trouble gravement l'enfant, porte atteinte à son intégrité corporelle, à son développement physique, affectif, intellectuel et moral, et dont les manifestations sont la négligence et ou les lésions d'ordre physique et ou psychique et ou sexuel de la part soit d'un membre de la famille ou d'autres personnes qui doivent prendre soin de l'enfant. Le Conseil de l'Europe, en 2002, est venu plus clarifier la notion de maltraitance que l'on va retrouver dans le Code pénal français dans tout un tas d'articles différents. Il va pouvoir s'agir, à l'extrême, on va dire, de violences physiques, châtiments corporels, surmédication, d'abus ou d'exploitation sexuelle. C'est, je dirais, dans ce domaine que la justice est le plus souvent amenée à se prononcer en matière d'agression sexuelle ou de viol. Il peut s'agir de menaces et de préjudices d'ordre psychologique, un langage irrespectueux, répété, dévalorisant, l'absence de considération, un chantage affectif, un abus d'autorité, des insultes, de l'intimidation, du harcèlement, des humiliations, des menaces de sanctions ou des menaces d'abandon, qui est souvent une circonstance que l'on va retrouver dans les dossiers dont nous sommes saisis, à un moment où la victime se rebelle et veut dénoncer les faits dont elle estime être victime, et où souvent l'auteur des faits va à ce moment-là faire jouer, quand c'est son coach sportif, la menace de tout abandon, de continuer à l'entraîner, si elle dénonce les faits. Il peut s'agir aussi d'abus financiers, de fraudes diverses, de vols, d'effets personnels, etc. Mais c'est quand même surtout, essentiellement, la première catégorie. On peut également viser, et ça c'est plus évidemment de la part des parents, les négligences, les abandons et privations diverses d'ordre matériel ou affectif, le manque répété de soins, les prises de risques inconsidérées, la privation de nourriture, de boissons ou d'autres produits d'usage journalier. En idée générale, la spécificité du sport qui vient d'être parfaitement décrite juste avant moi induit évidemment une spécificité des maltraitances éventuellement subies, maltraitances qui vont parfois être fondées sur l'idée de performance à réaliser de la part du jeune et imposée à un athlète, souvent vulnérable, avec une grosse difficulté, on va le voir, de déceler ces maltraitances et de les qualifier juridiquement et de pouvoir évaluer, c'est ce qui vient déjà d'être souligné, de faire la part des choses entre les maltraitances telles que, effectivement, la communauté non sportive va les estimer, et puis la notion de maltraitance au sein du milieu sportif, et souvent, dans ces cas-là, la justice va être amenée à s'entourer d'avis d'experts pour essayer de savoir si ce que nous ressentons comme des maltraitances ne serait pas en réalité une pratique plus ou moins habituelle et admise dans tel ou tel milieu sportif. Le sport est donc, à titre liminaire, un terrain évidemment favorable pour diverses formes de maltraitance. Pourquoi ? Parce que d'abord, à partir d'un certain niveau, va se produire un éloignement de la famille et des parents, les jeunes souvent intégrant des établissements scolaires ou des internats un peu éloignés, donc étant coupés de leurs repères familiaux. Parce que va se produire, on l'a vu, cette quête des performances, qui va parfois introduire des violences de la part des cadres sportifs, des pressions psychologiques éventuelles. Parce qu'aussi, on va pouvoir trouver dans certains milieux des violences qualifiées de festives, et notamment là, ce sont tous les rites initiatiques que certains jeunes vont devoir. Alors, ça existe dans le sport, vous me direz, ça existe aussi dans d'autres types d'activités, dans certains milieux étudiants et scolaires. Mais notamment, en matière de sport, on va retrouver parfois des rites initiatiques et certains bizutages qui vont être imposés pour pouvoir accéder au groupe. Autre raison éventuelle de la maltraitance, ça va être généré parfois par les tenues portées par les sportives notamment, qui deviennent, on l'a vu évidemment quand on compare les tenues de nos sportifs du siècle dernier ou même du début du siècle, beaucoup plus légères et vont parfois induire certains comportements. Alors, tout au long de ces deux journées, vous allez entendre citer un certain nombre de cas, et je ne vais donc pas m'y appesantir, mais au cours desquels, et d'exemples au cours desquels, on a pu voir certains sportifs ou sportives victimes parfois, dans ces cas-là, de leurs entraîneurs notamment. Outre le fait que le sport, milieu particulier, monde particulier, va générer un certain nombre de maltraitances spécifiques, ces maltraitances et ces violences, je vous l'ai dit, sont très difficiles à repérer, dès lors qu'elles ne sont pas forcément signalées par les victimes elles-mêmes. Et il existe de nombreux freins au fait que les victimes puissent venir révéler des attitudes qu'elles estiment être maltraitantes pour elles. Il y a cette fameuse volonté de performance qui va conduire certains sportifs à tout accepter de la part de l'entraîneur et qui va les amener à penser qu'ils ne sont pas en réalité victimes, mais qu'il s'agit d'un passage obligé à leur entraînement et aux performances qu'ils souhaitent accomplir. L'entraîneur est alors jugé comme celui qui sait, qui peut mener à la victoire et pour lequel, eh bien, il est absolument nécessaire d'accepter certaines conséquences obligées. Il y a aussi, de ce point de vue-là, beaucoup la confiance énorme, voire exacerbée, que certains parents placent dans l'entraîneur, qui va se substituer quasiment à eux. Raison pour laquelle la victime ne se sent absolument pas en capacité de dénoncer les faits, puisque ce serait alors trahir finalement son nouveau père et trahir aussi la confiance que les parents avaient mis en son entraîneur. On retrouve, comme dans beaucoup de situations également, chez la victime un sentiment de honte qui va l'amener à cacher le plus longtemps possible les faits qu'elle a subis. Honte parce qu'elle suppose être coupable d'avoir accepté pendant trop longtemps certains agissements et de ne pas avoir réagi. Il y a encore le phénomène de banalisation de certains types de violences. Et on va également retrouver très souvent à l'occasion des dossiers que nous connaissons dans ce type de maltraitance en milieu sportif, tout de suite une totale incrédulité de l'entourage. Totale incrédulité de l'entourage, que ce soit les parents, que ce soit les autres jeunes entraînés en même temps que la victime. Et à ce moment-là, on a toute la communauté sportive généralement qui va faire bloc. Et qui va, en faisant bloc, encore plus culpabiliser évidemment la victime qui a réussi à parler et la mettre totalement à l'écart. C'est dire que pour cette victime, beaucoup de paramètres jouent pour l'empêcher de parler et pour faire en sorte que finalement elle va souvent accepter la situation pendant de longues années, jusqu'à ce que pour diverses raisons cette situation lui apparaisse subitement intolérable, mais elle va subir parfois une situation de maltraitance ou d'abus, par exemple d'abus sexuel, très longuement, sans pouvoir la révéler en raison de tous ces paramètres que je viens de vous exposer. Alors, s'agissant de la réponse pénale que notre société peut apporter, aucun texte du code pénal ne prévoit spécifiquement des maltraitances en milieu sportif ou relatives au sport. Il y a de la même façon aucune... Dans notre code pénal, certaines infractions sont aggravées, les peines sont aggravées, dès lors que l'auteur de ces infractions sont par exemple les parents de la victime ou d'autres personnes. Mais il n'y a pas d'infraction spécifique au fait qu'elle soit commise par un entraîneur sportif, par exemple. Ça ne peut pas être une circonstance aggravante. Donc il y a des tas de catégories socioprofessionnelles qui, lorsqu'elles sont victimes ou auteurs d'une infraction, sont plus ou moins protégées ou plus ou moins sanctionnées. Par exemple, un enseignant qui est victime d'une infraction pénale, les peines vont être plus lourdes si on commet des violences sur lui. A contrario, si c'est lui qui commet des violences sur un enfant, les peines vont également être aggravées. Parce que l'enseignant est considéré comme, dans notre droit, une personne chargée d'une mission de service public. Mais il n'existe rien de tel en matière sportive, et par exemple, un entraîneur sportif n'est pas une personne spécialement protégée ou une personne spécialement sanctionnée si c'est elle qui commet des infractions. En revanche, on peut au minimum la classer, et c'est ce que fait la, c'est ce que fait la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions des tribunaux, la classer dans les personnes dont on considère qu'elles ont autorité sur la victime, qu'elles ont à tout le moins une autorité morale sur la victime. Ce qui fait que lorsque des entraîneurs sportifs sont mis en cause dans des dossiers judiciaires, il leur est régulièrement reproché d'avoir commis les faits avec la circonstance aggravante qu'ils avaient autorité sur la victime. Pas de textes pénaux spécifiques à la répression de la maltraitance en matière sportive, mais en réalité, les textes pénaux déjà existants et qui s'appliquent, on va dire, au commun des mortels, suffisent manifestement, et de mon point de vue, à réprimer la totalité des formes de maltraitance que l'on peut trouver dans le sport. Alors, j'ai pointé exclusivement les maltraitances les plus couramment relevées, notamment les violences physiques ou psychologiques, qui peuvent recouvrir évidemment une multiplicité de cas différents. Reste à ce que, et c'est ce que mon prédécesseur a exposé à un moment donné, que, bien évidemment, toutes les violences ne sont pas sanctionnables, puisque on a pris tout à l'heure l'exemple de la boxe. C'est vrai que dans notre droit, le fait de frapper quelqu'un constitue des coups et blessures volontaires, mais que, bien évidemment, on ne va pas aller poursuivre de boxeurs qui se seraient affrontés à l'occasion d'un match. Et que lorsque l'on a des plaintes relatives à des violences subies en milieu sportif, et qui sont assez nombreuses, hein, ces plaintes, notamment dans les sports collectifs, hein, je dirais que l'essentiel, on va dire, 90% des plaintes que je traite, ce sont des plaintes de violences dans le foot, essentiellement. Là encore, tout n'est pas poursuivable, parce que, comme c'était dit tout à l'heure, on est bien obligé, le droit et la justice est bien obligé de tenir compte de ce que dans le sport, il y a des pratiques autorisées. Dans la boxe, c'est le fait de se frapper, par exemple, volontairement, même s'il y a des protections à côté. Dans les sports de combat, là aussi, il y a des violences qui sont commises, mais qui sont commises en accord entre les différentes parties et dans le respect de certaines règles. Donc, lorsque nous sommes saisis de plaintes dans ce domaine-là, bien sûr, il nous incombe de vérifier que ce sont des violences anormales qui ont été commises et pas, évidemment, les violences normales générées par le type de sport considéré. Il ne doit pas s'agir du résultat accidentel d'une activité sportive. Par exemple, quelqu'un qui ferait du ski ou de l'alpinisme et qui aurait chuté. Les violences doivent s'analyser avec un fait matériel, d'une part, en droit, c'est-à-dire un coup, une violence portée, que la loi nous impose d'examiner en fonction du résultat de l'atteinte qui aura été subie par la victime, puisque en droit, les peines et les infractions sont différentes selon qu'elles entraînent une incapacité totale de travail ou pas. Quand elles en entraînent une, les peines sont différentes si cette incapacité excède ou n'excède pas 8 jours. C'est des infractions plus ou moins graves, qui sont jugés par des tribunaux différents, de la même façon que si la violence commise va entraîner une mutilation ou va entraîner une incapacité permanente de la personne, un handicap permanent, là encore, là on bascule dans les faits criminels, donc là encore l'atteinte sera jugée différemment. Et indépendamment de l'atteinte elle-même qui doit être commise, on va essayer de vérifier si la violence commise est bien la cause directe du préjudice invoqué par la victime. Puisque vous pouvez avoir quelqu'un qui est déjà, avant les violences, affligé de certains troubles ou de certaines maladies ou de certains handicaps et qui va se trouver, du fait des violences, dans une situation médicale aggravée. Donc dans ces cas-là, nous devons recourir systématiquement à des expertises médicales pour demander à l'expert. Vous aurez probablement quelques apports sur ce point demain avec l'un de nos experts légistes, Madame Groulet-Rongros, de l'Institut médico-légal. On demande à ce moment-là à l'un des experts de l'Institut de nous dire quelle est véritablement la conséquence des dernières lésions, des dernières violences qui ont été commises, et voir quelle est la part entre les conséquences de ces lésions et les lésions qui préexistaient, de façon à pouvoir imputer aux responsables des dernières violences uniquement la part de responsabilité qui est la sienne. Ça va beaucoup compter, surtout après, en termes de préjudice financier réclamé par la victime. Un certain nombre, je l'ai déjà dit, de causes d'exonération existent, pas forcément liées d'ailleurs au sport, mais il est bien évident qu'il va y avoir des faits de maltraitance, notamment dans les violences qu'on ne va pas poursuivre du fait de l'activité sportive elle-même ou de l'acceptation des risques par la victime, notamment tout ce qui est violence dans les sports de combat, dès lors, là encore, que tout a été fait régulièrement et qu'il ne s'agit pas de violence illégitime. On va, par contre, retenir le fait que, en droit pénal, le consentement de la victime est indifférent. Si elle subit des violences, même consenties, le parquet pourra quand même engager des violences si on estime que ces violences sont causées de manière illégitime. Un autre pan des violences que je souhaitais aborder, parce que c'est l'autre aspect le plus courant des infractions que l'on peut retrouver dans la maltraitance en matière de sport, ce sont les violences sexuelles. Alors, les violences sexuelles, on va les trouver dans le milieu sportif, sous toutes leurs formes telles que prévues par le code pénal, c'est-à-dire des plus graves viols aux plus infimes, avec un grand nombre de dossiers qui sont relatifs à ce qu'on appelle des agressions sexuelles ou des atteintes sexuelles, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de fait de pénétration, mais d'attouchement, on va dire, pour parler simplement, d'attouchement sur les zones sexuelles de la victime. On va avoir des faits parfois d'exhibition sexuelle, parfois de harcèlement sexuel de la part d'un entraîneur ou d'un autre sportif, puisque le harcèlement sexuel peut être réalisé par une personne qui n'est pas forcément votre supérieur hiérarchique. Avec toujours cette difficulté de convaincre la victime de se sortir de l'emprise psychologique que peut exercer sur elle son entraîneur. Alors je vous le disais, en matière d'abus sexuels, tous les cas d'abus sexuels, dès lors que les faits vont être commis par une personne, notamment un entraîneur, dont on peut penser qu'elle exerce une autorité sur la victime, cette circonstance aggravante va être systématiquement relevée. En conclusion, toutes les qualifications juridiques déjà prévues par le code pénal sont parfaitement applicables à tous les cas de maltraitance qu'on peut retrouver dans le sport. Le problème essentiel va résider dans la détection de ces maltraitances et dans leur dénonciation à l'autorité judiciaire. La plupart des situations nous sont révélées par les victimes elles-mêmes, mais très tardivement la plupart du temps, pour les raisons que je vous ai déjà expliquées. Et c'est vrai que on peut penser que ces violences et ces maltraitances peuvent tout à fait être détectées par l'environnement sportif, par les médecins sportifs que la victime peut être amenée à rencontrer et qui sont certainement plus à même que nous d'apprécier la normalité, on va dire, par rapport au milieu sportif lui-même. On voit qu'on assiste à une prise en charge institutionnelle de plus en plus importante de tout ce qui est maltraitance dans le sport. On avait vu en 97 Ségolène Royal qui avait lancé une lutte. Là, c'était contre les violences plutôt au sein de l'éducation nationale. En 2003, recommandation du Conseil de l'Europe pour la lutte contre les violences homophobes dans le sport. En 2007, l'étude dont on a parlé tout à l'heure, lancée par Roselyne Bachelot, contre le harcèlement et les violences sexuelles dans le sport. Et en février 2007, le CIO, qui a fait une déclaration de consensus sur le harcèlement et les abus sexuels dans le sport. Donc ça, c'est une certaine évolution. Je ne vous cache pas quand même qu'au niveau judiciaire, on a quand même le sentiment que malgré tout, l'évolution est assez lente et qu'un certain nombre de maltraitances dans le sport ne parviennent pas jusqu'à nous. ou parviennent jusqu'à nous de façon beaucoup trop tardive, malheureusement. Je vous remercie.
Juste avant d'enchaîner, le temps que Fred prépare son diaporama, un peu pris dans la prise de notes, j'ai oublié de remercier Serge pour son intervention et je tenais à le faire parce que je trouve que cet apport de l'anthropologie et de l'ethnologie, de son regard anthropologique sur ces thématiques et ces problématiques est extrêmement intéressant et je pense à beaucoup de choses à nous apporter et à nous apprendre. Et puis c'est toujours un plaisir d'entendre ou réentendre la pensée de Lévi-Strauss, pas forcément évidemment autour de ces questions, mais plus globalement. Merci aussi, Madame Campan, pour ces précisions à la fois techniques et juridiques extrêmement importantes. Et je laisse donc la parole à Fred Ebocco.
Allô. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais vous parler de l'universalité et des spécificités des normes dans un monde globalisé. Et je vais vous faire quelques réflexions sur les identités et les pratiques sportives. Mais avant de commencer, j'aimerais vraiment remercier les organisateurs de ce colloque, et en particulier le CAPS de m'avoir invité. Je ne suis pas spécialiste du sport, je suis plutôt spécialiste de la santé. Et je suis simplement amateur de sport, donc je suis très heureux d'être parmi vous. Et je vais apporter un éclairage qui sera plutôt général et plutôt global. Pour parler de l'universalité et des spécificités des normes. En propos introductif, je voudrais dire quelques mots sur le sport, entendu ici comme un miroir déformé et une fenêtre sur le monde. Pourquoi un miroir déformé ? Parce que le sport, que ce soit au niveau international, au niveau national ou au niveau des individus, est aussi un miroir des inégalités de ce monde. Et qui peut être aussi un miroir déformé de ces inégalités en raison du succès et des performances qui peuvent intervenir de manière plus ou moins aléatoire sur n'importe quelle partie du monde, y compris les parties du monde qui sont frappées par les plus grandes inégalités. Les normes sportives, au niveau international, relèvent de normes qui vont être imposées à tout le monde, à travers des fédérations sportives, à travers des organisations, et tous les pays, toutes les sociétés qui adhèrent à ces organisations internationales sont supposés accepter toutes ces normes. Pour autant, il va y avoir une appropriation différenciée et inégalitaire de ces normes suivant le pays, suivant la culture sportive et suivant aussi les différentes disciplines. De ce point de vue, il n'est pas du tout anodin d'être jeune footballeur né à Paris ou d'être jeune footballeur né à Yaoundé, parce qu'on est là en phase de contraintes, en phase de socialisation tout à fait différente, et tout en étant éduqué et socialisé sportivement pour respecter les mêmes normes. Donc quand on parle d'universalité de ces normes et de spécificité, il y a un mot qui revient automatiquement, c'est le mot des identités, des spécificités et des représentations. Il faudrait rajouter aux identités, aux spécificités, les représentations et les émotions, qui vont aussi avoir un caractère très différent suivant l'endroit où on se trouve. Pour utiliser une petite caricature, en France, on va beaucoup parler de lynchage médiatique d'un entraîneur, d'un sportif, etc. Et il y a des pays où ça va être lynchage tout court, après une défaite, après une contre-performance. Et c'est aussi pour ça que je parle aussi ici, je rajoute le mot des émotions, parce que tout ça a une importance tout à fait fondamentale dans ce qui concerne les maltraitances de manière générale, c'est-à-dire au-delà des enfants. Alors, nations et sportifs dans un monde en mutation. Depuis la chute du mur de Berlin, on vit une accélération de l'histoire en matière sportive. On n'a jamais autant communiqué d'une partie à l'autre du monde. Les informations n'ont jamais circulé aussi rapidement. Et les inégalités entre les différentes parties du monde, notamment entre le Nord et le Sud, n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui. Donc c'est une contradiction qui est très intéressante en matière sportive, où le jeune sportif qui est à Rio, qui est à Yaoundé ou qui est à Dakar, il voit ce qui s'est passé à Rome la semaine dernière, mais il vit avec ces rêves-là, mais avec des contraintes et des contradictions qui vont aussi orienter mon propos. Pour donner un petit éclairage historique, d'un point de vue politique, les nations, les pays, notamment les pays jeunes, récemment indépendants, se sont aussi servis du sport comme levier comme porte-drapeau et se sont servis des sportifs comme porte-drapeau. Et parfois, ces drapeaux étaient lourds à porter pour les sportifs, des footballeurs, des basketteurs, des athlètes, qui étaient censés représenter le pays, au-delà même de ce qu'ils pouvaient faire. Donc, de ce point de vue, je vais donner quelques exemples, tout à fait simples, que je vais prendre dans, par exemple, l'histoire du football. Des drapeaux lourds à porter, il faut savoir que jusque dans les années 80, plusieurs pays du monde, notamment les pays du Sud, les pays africains en particulier, les sportifs ne pouvaient pas sortir du pays sans une autorisation spéciale des gouvernements qui se servaient d'eux. Et la majorité des sportifs qui voulaient partir, notamment dans les années 70, pour aller évoluer à l'étranger, étaient obligés d'utiliser d'autres arguments, notamment des arguments scolaires, pour pouvoir sortir de leur pays, parce qu'ils représentaient, en quelque sorte, ces pays-là, à travers notamment le sport amateur. Ce qui s'est passé entre-temps, avec les crises économiques notamment, c'est qu'on a eu une inversion de perspective absolument extraordinaire. Des pays se sont effondrés, des liens sociaux se sont effondrés, des fédérations sportives se sont effondrées, et en même temps, il y a eu une individualisation des carrières qui a fait que les sportifs de ces pays-là ont pu aller dans le monde entier, dans des situations où ils se représentaient d'abord eux-mêmes, ils allaient réussir à l'étranger, et ensuite, ils étaient de nouveau captés comme porte-drapeau de leur propre nation, un peu dans une espèce de contre-courant de ce qui se passait quelques décennies auparavant. Pourquoi le monde s'effondre et que le sport continue? En prenant tous les pays du Sud qui ont connu des crises de régulation, des crises économiques très fortes, on voit aussi que des mêmes pays sont partis de manière individuelle des sportifs, de plus en plus jeunes, souvent, et qui arrivent dans des clubs où ils sont formés en Occident, avant même d'être connus chez eux. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce sont ces individus-là qui finissent par redonner quelques couleurs au drapeau qu'ils étaient censés porter avant. Et ça, ça ne va pas toujours sans douleur, parce que là, je vous parle juste du petit pic émergé de l'iceberg. Dans tous les jeunes sportifs qu'on va recruter ou qui partent avec leurs parents de ces pays-là pour venir réaliser leurs rêves ou exercer leur talent dans les pays du Nord, on n'en voit qu'une toute petite partie. Il y a une grande partie qui vivent des situations absolument catastrophiques, et les exemples nous sont donnés pratiquement tous les mois, de ces jeunes qui viennent passer des essais, qui ont parfois 13 ans, 14 ans, 15 ans, un peu plus, et qui ne sont pas retenus par leur club, et qui ne peuvent pas accepter de repartir dans leur pays, parce que ce serait la représentation d'un échec individuel, d'un échec familial. Et pour rebondir sur un thème dont Serge Simon parlait tout à l'heure, il y a quelques années, toujours pour reparler des mêmes situations, être bon parent, dans les sociétés où le sport était surtout un sport amateur, être bon parent, c'était parfois empêcher son enfant de faire du sport. Que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo ou dans d'autres pays, le sport intensif, pratiqué dans un monde amateur, était considéré comme une déviance. On disait à l'enfant qu'il ne peut pas passer autant de temps sur des terrains de sport parce que la priorité était donnée à l'éducation. Aujourd'hui, on en arrive à une perspective absolument inversée où ce sont des parents qui partent avec leurs enfants vers des pays étrangers pour les confier soit à un agent, soit à un club, y compris en cas d'échec, et qui délèguent leur responsabilité parentale de manière presque névrotique à d'autres institutions ou à d'autres personnes. Les migrations de sportifs n'ont jamais été aussi nombreuses et aussi fortes, et je voudrais prendre juste trois exemples pour faire la corrélation entre ces crises, entre l'individualisation des carrières et, plus globalement, les cultures sportives. Il y a trois pays dans le monde qui distribuent, au point de vue statistique, qui distribuent fortement leurs footballeurs dans le monde, pour ne prendre que l'exemple du football, c'est le Brésil, le Nigeria et le Cameroun. Alors, pour le Brésil et le Nigeria, vu les tailles des populations et les cultures de football, vous pourriez me dire, c'est normal, ils sont très nombreux, il y a une culture très forte. Le Cameroun est un petit pays entre les deux, un petit pays de 17 millions d'habitants, mais qui a presque autant de footballeurs dans le monde que le Nigeria. Pourquoi? D'abord parce que d'une part, il y a une culture sportive très forte, mais ça n'explique pas tout. Et surtout, il s'est passé un événement en 1990 où, avec cette circulation de l'information, où grâce à une bonne performance de l'équipe nationale du Cameroun en 1990, ça a été une espèce de signal pas seulement au niveau local, mais aussi au niveau international, où on a fini par, en quelque sorte, placer ce pays sur la carte du monde comme étant un pays de football, avec donc un attrait très fort de la part des agents, mais aussi une volonté absolument extraordinaire des jeunes d'aller exporter leur talent. Et ça, ça provoque aussi de grandes situations qu'on ne voit pas du tout, de servitude volontaire, dont j'ai parlé à l'instant, avec des questions de limites que je voudrais évoquer ici, qui est l'enjeu qui concerne les mineurs et qui est donc un enjeu fondamental. Quelques questions peuvent émerger ici, où on a quelques vides juridiques dont on a parlé tout à l'heure, mais il existe aussi au niveau international, il existe le droit des enfants. Mais comme disait Serge, chaque sport se crée aussi ses propres valeurs et ses propres normes. Et de fait, on arrive à des situations qui ressemblent un peu à des impasses aujourd'hui, avec des jeunes qu'on retrouve pas seulement dans les pays européens, dans les pays d'Afrique du Nord, dans les pays d'Amérique latine, et qui sont pratiquement livrés à eux-mêmes après des échecs sportifs, et qui nous posent donc ici la question non seulement d'une maltraitance, mais d'une maltraitance qui est vécue, en tout cas qui est suscitée presque de manière volontaire à cause de contraintes structurelles qui sont au-dessus des individus. Alors, dans cette mouvance d'accélération de la performance, des cultures sportives très fortes, on assiste aussi à des dominations économiques que vous connaissez très bien et sur lesquelles je vais passer rapidement. Mais il faut quand même souligner que les rationalités économiques et la performance induisent des standardisations de tous les facteurs à l'intérieur du milieu du sport, la professionnalisation de tous les secteurs, au niveau des entraînements, au niveau des managements et au niveau aussi des pertes et profits. On voit émerger à travers toutes les fédérations sportives une kyrielle de métiers qui ne concernent pas directement le sport, et on assiste aussi, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, au phénomène du dopage dans cette espèce de bateau ivre de profit. Et là-dedans, il faut quand même souligner un phénomène qui est lui aussi général et spécifique, qui est la faible prise en compte de la déperdition de l'expérience des sportifs dans tous les domaines. On voit des sportifs émerger, arriver en fin de carrière, mais dans ce monde qui est de plus en plus rationalisé, de plus en plus professionnalisé, cette expérience des sportifs ne se retrouve pas après, que ce soit dans l'éducation des sportifs, que ce soit à travers le management du sport. Et il existe aujourd'hui toute une dynamique pour arriver à corriger le tir, notamment pour reparler encore du football, des syndicats de footballeurs et de sportifs en général qui exigent et qui demandent de plus en plus à avoir une place. Parce que ce qu'on oublie ici, et que je rappelle, c'est que les émotions et les symboles ont un véritable sens dans la régulation du sport international. Je vais prendre juste un petit exemple. Paris a été ville candidate pour organiser les Jeux Olympiques, avec vraiment un processus de professionnalisation de cette organisation, la mise en avant de vrais professionnels. Une commission arrive pour évaluer la candidature de Paris. Dans cette commission, il y a une sportive qui s'appelle Nawal El-Moutawakil, championne olympique du 400 mètres à Los Angeles en 1984. La première chose qu'elle demande aux autorités françaises qui la reçoivent à l'aéroport, c'est où est Marie-Josée Pérec. Évidemment, Marie-Josée Pérec n'était pas en première ligne de cette organisation, mais c'est simplement pour aussi parler d'une culture sportive manquante aussi ici, au-delà de la très forte professionnalisation et de la très bonne organisation prescrite pour ces Jeux Olympiques, il y a aussi une symbolique qui va expliquer qu'on puisse aussi définir la culture sportive comme étant une culture et des pratiques qui vont échapper au simple noyau dur des pratiquants, mais qui vont immerger tout le pays et qui vont aider à un moment donné une collectivité, un pays, à avoir, à capter le regard des autres sur elle-même. C'est juste un exemple pour parler de cette symbolique-là. Je ne dis pas du tout que la France n'a pas eu les Jeux Olympiques à cause de cet événement, mais c'est un exemple symbolique pour faire la distinction entre des pays qu'on pourrait qualifier de culture sportive forte et des autres. Alors, les identités peuvent aussi proposer une espèce de résistance aux normes. Et pour reparler des enfants, et notamment du sport roi, de l'accélération des compétitions internationales, à travers lesquelles sont invitées à peu près toutes les nations. Maintenant, il y a des compétitions qui vont concerner les moins de 17, les moins de 15. Comment on fait pour des pays qui n'ont pas de championnat pour les moins de 15 ans, qui n'ont pas de championnat pour les moins de 17 ans? Comment on fait pour proposer des équipes nationales en basket, en football et dans les autres sports pour des pays qui n'ont pas ces structures de détection. Alors, dans plusieurs pays dans le monde, notamment en Asie, en Afrique, mais aussi en Amérique latine, ce qui se passe, c'est que quand un jeune est détecté et qu'il a déjà 16-17 ans, on lui refait un acte de naissance avec quelques années en moins pour pouvoir représenter son pays dans ses compétitions sportives. Et d'un pays à l'autre, c'est un phénomène qui peut être ici marginal, dans d'autres pays massifs et dans d'autres encore quasiment systématiques. Où il y a des pays que je ne vais pas citer ici parce que je n'ai pas d'histoire, où on est presque sûr que 90% des gamins qui sont présentés pour des compétitions de jeunes ont 2 ans de plus que l'âge qui est requis, qui est une espèce de résistance un peu à une norme en fonction des structures inexistantes. Dans ce domaine-là, il faut aussi relever que toutes les blessures ne sont pas simplement de l'ordre du rationnel, notamment pour des adultes qui ont réussi, qui sont extrêmement bien payés. On doit aussi tenir compte des blessures psychologiques qui nous rappellent que les rêves sont aussi des émotions individuelles. Je voudrais prendre un exemple tout à fait récent d'un footballeur brésilien qui joue à l'Inter de Milan jusqu'à il y a quelques semaines et qui est reparti chez lui à Rio. Et qui a décidé, qui a demandé, qui a supplié son club de rompre son contrat parce qu'il ne jouait pas assez. Alors la réaction chez lui à Rio a été double, a été binaire. Suivant les supporters de son ancien club dans lequel il est revenu, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et suivant les autres, il est juste très bête. Il était payé très très cher, il ne jouait pas, qu'est-ce que ça pouvait lui faire? Pourquoi il n'est pas resté en Italie? Et lui, il énonce juste une espèce de blessure psychologique que lui... Sa passion à lui, c'est de jouer au football, et même s'il était très bien payé, il ne comprenait pas d'être assis aussi souvent sur un banc de touche, parti d'un pays où il est encore une étoile, une star. Il préfère revenir au Flamengo, perdre plus des 3/4 de son salaire, et recommencer à faire le travail qui correspond aussi à sa passion. Et pour l'anecdote, il a marqué un but la semaine dernière devant 80 000 personnes, et il avait l'air absolument heureux. Au-delà de l'anecdote, soulignons que cet événement est simplement possible aussi parce que des structures existent au Brésil et qui vont différencier le Brésil d'autres pays du Sud. On peut repartir jouer au Brésil, on peut être payé, on peut vivre décemment en jouant au football, ce qui ne sera pas le cas de beaucoup d'autres individus qui viennent de pays où cette structure-là n'existe pas, où ce serait simplement un échec. Alors, quelques perspectives. J'ai repris une phrase que j'aime pas du tout, le sport est l'opium du peuple, mais pour que nous puissions en discuter, pour proposer que le sport soit en fait vu comme un agent et un révélateur du lien social, un agent et un révélateur des inégalités internationales, un marqueur des identités, un moyen aussi, pour inverser un peu la perspective et parler des maltraitances, mais avec la force des sportifs, un moyen exceptionnel de souligner et de dénoncer des inégalités et des maltraitances. Il y a un nombre de plus en plus élevé de sportifs qui sont engagés dans des causes et qui permettent justement de souligner ce dont sont victimes les uns et les autres, et notamment sur les questions de santé où ils sont très engagés. Pour reparler d'universalité et de spécificité, tout n'est pas relatif. À un moment donné, il faut aussi pouvoir promouvoir une éthique et des normes qui servent à tout le monde. On a parlé tout à l'heure de choses relatives, des scarifications, etc. Elles existent, mais le fait d'appartenir à des sociétés communes, pas seulement à une commune humanité, impose aussi à un moment donné qu'il y ait les mêmes règles pour tout le monde, notamment pour protéger les plus vulnérables de toute forme de maltraitance. Alors, en conclusion, j'ai pris quelques citations, dont l'une du philosophe Emmanuel Kant pour parler d'éthique. « Agis toujours comme si la maxime de ton action devait être érigée en loi universelle de la nature. » Ça veut dire « Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. » Une petite citation d'Albert Camus pour ramener un peu ce dont on parle à de l'humanité. « Mon métier, c'est d'être un homme. Les sportifs, ce sont d'abord et surtout des êtres humains. Même quand ils sont portés par des rêves très forts, il ne faut pas oublier aussi leur vulnérabilité. » Donc, comme disait Serge, respecter les spécificités, mais aussi imposer des normes éthiques pour le bien-être minimal des sportifs et pour la pérennité des idéaux sportifs. Et je voudrais finir, juste si Franck me le permet, pendant 2 minutes, par vous faire une brève biographie d'un sportif qui m'a beaucoup marqué, mais dont tout le monde a un peu entendu parler, et qui résume un peu tout ce que j'ai dit depuis le début, y compris la globalisation du sport. Je voudrais parler pendant 2 minutes de Roger Milla, que j'ai eu la chance de voir jouer et qui a une carrière extraordinairement longue et qui a subi et connu à peu près tout ce que j'ai raconté tout à l'heure. J'ai vu Roger Milla jouer en étant blessé lorsqu'il était à Montpellier, blessé le vendredi, le jeudi à un match, il prend l'avion le vendredi, il joue le dimanche pour parler de choses relatives. La blessure est diagnostiquée par le staff médical de Montpellier, c'est une grosse contracture musculaire. À Montpellier, on décide qu'il ne peut pas jouer. Que ce soit pour Montpellier ou pour le Cameroun, il ne peut tout simplement pas jouer. Donc lui, il reconnaît qu'il a mal, mais il peut jouer pour son pays. Et dans son pays, le staff médical reconnaît qu'il est blessé, mais qu'il peut jouer. Et ce qui nous ramène à quelque chose de relatif, et que les anglo-saxons connaissent très bien, c'est le sickness, le illness et le disease. Le disease, c'est la maladie suivant des catégories biomédicales. Le sickness, c'est la manière avec laquelle collectivement on peut interpréter la maladie. Et le illness, c'est la manière avec laquelle un malade lui-même peut dire et ressentir sa maladie. Et à ce moment-là, dans l'exemple que je vous donne, il y a les trois. C'est un exemple que je vous donne, mais que j'ai vécu en tant que petit ramasseur de balles. Je vois donc un homme pendant une heure, pendant 60 minutes, pouvoir courir à peine. Il pouvait marcher. Courir, c'était déjà difficile. Se servir d'une seule jambe pendant une heure, jusqu'à ce qu'il marque le but pour lequel il est tant attendu et qu'il puisse enfin sortir. Mais résultat des courses, pour revenir à des choses qui sont universelles, il n'a pas joué pendant trois mois ensuite, parce que ce n'était pas possible. Donc il y a des choses qui sont spécifiques, il y a des choses qui sont universelles, et il y a des dynamiques, des inégalités du monde. Quelqu'un qui a accepté de porter un drapeau qui était extrêmement lourd et qui a presque tout sacrifié, y compris à un moment donné sa santé, pour y arriver, ça arrive dans certaines parties du monde, ça n'arrive pas dans d'autres. Est-ce qu'on peut estimer que c'est une maltraitance? Oui, quelque part, même s'il s'agit d'adultes, mais il s'agit aussi d'une chose qu'on aurait pu, et qui a été de toute façon par les faits, relativisée. Oui, j'ai mal, mais je peux jouer. Non, vous êtes blessé, vous ne pouvez pas jouer. Oui, tu es blessé et tu vas jouer. Je voudrais terminer par là, en vous remerciant encore. Merci.
Merci. Donc effectivement, on reprend le cours, donc en laissant la place à quelques questions venant du public, si tant est
qu'il
y
en a. Est-ce qu'on a un micro
concernant les
trois interventions? Premièrement, un micro circulant et...
Donc y a-t-il des questions pour...
Donc Philippe Parquet. Madame le procureur, j'ai entendu la fin de votre intervention sous la forme de notre arsenal juridique est actuellement compétent, adéquat, pertinent pour traiter toutes les variétés de dommages avec les pondérations d'usage par rapport au justiciable. D'accord. Deuxièmement, vous avez dit, en écho à ce qu'a dit Serge Simon, qu'on se trouvait dans un milieu particulier, dans un milieu spécifique, avec Serge Simon une merveilleux lapsus sous la forme que le monde sportif est incarcéré dans le monde normal. Non, il est inséré. Incarcéré, c'est pour Madame Campo. Je crois que ce qui est important, c'est que là, est-ce qu'il y a une spécificité, une originalité? Il n'y a pas d'originalité du monde sportif à créer des valeurs, mais à mettre en scène les valeurs. Et c'est la même chose pour l'application de la loi. Est-ce qu'il y a une mise en scène particulière de ce qui est le lot commun de tout justiciable? Et c'est ça qui est important. Donc il n'y a pas de stratégie dérogatoire. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se met en scène de manière différente que notre travail, et vous l'avez très bien dit, mais il y avait une contradiction, me semble-t-il, entre la première partie de votre intervention, qui m'a étonné, et puis la seconde dans laquelle je vous ai retrouvé comme un magistrat de notre pays.
Je ne sais pas quelle contradiction vous avez relevée dans ma première partie, qui visait surtout à décrire... les raisons pour lesquelles la maltraitance en milieu sportif pouvait s'installer, pouvait se développer. J'ai du mal à vous répondre parce que je n'ai pas vu pour ma part de contradiction, puisque c'était pas des chapitres qui s'opposaient. Mais effectivement, ça a été rappelé par tous les intervenants. Si la maltraitance existe dans le milieu sportif, comme partout ailleurs, c'est parce que les sportifs, comme l'a rappelé monsieur, sont des hommes, aussi bien les victimes que les auteurs, qu'on va retrouver des gens qui vont pas forcément parce qu'ils sont dans le milieu sportif, mais parce qu'ils ont en eux certaines difficultés personnelles, et qui vont, je pense, par exemple, pour les auteurs d'abus sexuels, évidemment, profiter d'une situation qui est, pour eux, assez facile, parce qu'ils vont, je pense, à un entraîneur de foot, par exemple, de gamins l'après-midi, qui aurait quelques tendances pédophiles, va évidemment trouver là, on va dire, presque un vivier de victimes potentielles, et va trouver dans la pratique du sport l'occasion de repérer quelques victimes en observant les gamins, en repérant ceux qui seraient particulièrement plus fragiles, beaucoup moins encadrés par leurs parents. Et puis c'est vrai que les manifestations d'abus sexuels vont se trouver favorisées dans ce cas-là par la situation notamment d'après-match avec l'univers et l'ambiance des vestiaires et des douches et autres sorties d'activités sportives. Voilà.
Je voulais souligner le fait que nous avons eu la même difficulté quand nous avons parlé des violences et de la maltraitance dans l'entreprise. Et que ce qu'il en est pour le milieu sportif auquel nous arrivons longtemps après, si on pouvait profiter de l'expérience de ce qui s'est passé dans la vie professionnelle, on a eu les mêmes difficultés en pensant que le monde du travail était original. Et à partir du moment où on a gommé cette originalité, sauf de mise en scène, pour revenir au droit commun et à une conception commune de la maltraitance, on avait fait beaucoup de progrès. C'est une expérience que nous avons eue et qu'il faudrait, dont on pourrait profiter ici. Et c'est l'avantage d'avoir ce regard croisé sur différentes disciplines ou différents milieux.
Moi, je voudrais interpeller Madame la vice-procureure sur un terme qui est revenu souvent dans son exposé sur, par rapport à l'application froide et rigoureuse du droit, sur votre nécessaire prise d'information sur le caractère illégitime ou légitime d'une violence. C'est quoi le caractère légitime ou illégitime? Par exemple, vous dites dans le sport, vous allez vous entourer d'experts pour savoir si là, on est dans le cas d'une violence légitime ou illégitime, normale ou anormale.
Pas systématiquement, évidemment, dans tous les dossiers. Parce que c'est vrai que, pour prendre le cas que je viens de citer, d'un entraîneur qui commettrait des attouchements sexuels sur les petits garçons qu'il entraînerait, bon, là, on n'a pas besoin d'experts pour comprendre que c'est un comportement parfaitement anormal. Mais il y a certaines situations où la personne mise en cause va se réfugier derrière la pratique sportive pour légitimer son acte. Notamment, alors, par exemple, je pense à des situations de massage dénoncées par certaines victimes qui vont être légitimées par la personne mise en cause comme une pratique absolument courante et nécessaire de masser le sportif avant, pendant, après l'entraînement. Ou d'autres pratiques dans d'autres milieux de sport collectif où parfois on va nous invoquer que c'est quelque chose qui se passe très régulièrement. Et dans ces cas-là, si on n'a pas affaire à un juge qui est spécialement compétent dans le sport en question, on va parfois s'entourer d'avis pour savoir si effectivement l'argument qu'on nous objecte est recevable ou pas. Voilà. Mais c'est sûr qu'il y a un certain nombre de faits où, honnêtement, il n'y a pas besoin d'expertiser externe. Hein. C'est juste lorsqu'on va nous alléguer la régularité du geste qui est mal vécu par la victime, que parfois il va être nécessaire de vérifier ça. Ou alors, ça, c'est également une expertise dont on va avoir besoin dans les dossiers de maltraitance moins faciles à établir, d'entraînement trop intense, avec éventuellement un enfant ou un mineur qu'on soumettrait à des entraînements, des privations alimentaires, des prises de divers produits. Bon, là encore, on va se trouver confronté à des objections sur le fait que c'est des pratiques régulières, que l'enfant, comme tous ses autres camarades du même groupe, sont soumis aux mêmes pratiques. Dans ces cas-là, il va falloir investiguer pour vérifier la réalité de tout ça. Voilà.
Donc, Frédéric Allaire, moi j'ai été un petit peu gênée dans l'exposé de Cherche par cette peut-être analogie entre l'excision et les scarifications. J'aurais vu probablement une analogie, j'aurais peut-être aussi bien compris si on avait assimilé les scarifications avec le piercing, ce qui est plus fréquent dans nos sociétés européennes. Et j'aurais voulu qu'il explique pourquoi il a fait cette analogie, parce que pour moi, quand même, l'excision, c'est retirer un organe, ça va au-delà d'une scarification, il y a une... c'est comme une amputation, quoi.
J'ai pas fait une analogie. J'ai repéré, j'ai pris celle-là parce qu'effectivement elles sont extrêmement chargées de sens et très fortes. J'ai repéré et énoncé deux pratiques. J'aurais pu parler de la circoncision, qui est aussi une mutilation sexuelle rituelle, très acceptée, par exemple, ici aussi. C'est simplement pour dire que l'exemple de l'excision est un bon exemple, à mon avis, puisque c'est quelque chose qui a été, dans certaines sociétés, et est encore pratiqué, mais, j'allais dire, beaucoup plus valorisé, accepté que ça ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire, on est dans une phase d'inversion globale. Je ne suis pas un spécialiste de l'excision, mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, c'est unanimement condamné ici, et de plus en plus fortement condamné, même dans les pays qui le pratiquent encore, en Afrique. Vous avez beaucoup de mouvements qui se sont levés contre l'excision, qui, effectivement, de notre point de vue, mais je trahirais Lévi-Strauss en disant que je vais juger ça de mon point de vue, dire que c'est une barbarie, c'est pas à moi à juger ça, même si, effectivement, il y a peut-être un universel commun à définir. Mais c'est un bon exemple de pratiques qui ont été longtemps ancrées, construites, constructrices d'identités fortes, et pourtant qui, aujourd'hui, apparaissent de manière assez... clair comme barbare. La scarification est un peu dans une étape intermédiaire, c'est-à-dire, enfin, je ne sais pas où va la scarification en Afrique, mais c'est vrai que si on prend les scarifications et qu'on les met dans un autre contexte, là par contre, pour nous c'est évident, c'est quelque chose qui sera justiciable dans les pays d'Afrique où est pratiquée de manière extrêmement identitaire la scarification, c'est évidemment pas justifiable, mais c'est au contraire quelque chose de très valorisé. Donc c'est pas une analogie, c'est simplement des pratiques qui existent. J'aurais pu parler de la circoncision, qui est quelque chose, encore une fois, qui est une mutilation sexuelle acceptée. Alors, est-ce que c'est une amputation? J'en sais rien, mais on enlève un morceau du corps à un jeune nourrisson. Ce sont des choses qui, là, pour le coup, sont connotées complètement de manière positive et valorisées. C'est simplement pour renvoyer toujours à ce jeu de miroir qui n'est pas, comme disait Lévi-Strauss, un éclectisme nous baignant dans des espèces de tolérance et nous interdisant de plus rien dénoncer, mais effectivement c'est un questionnement permanent et fuyant, dynamique, mobile, fluide. C'est-à-dire ce qu'on croit attraper là, pouf, disparaît en quelques années pour peut-être devenir différent. Donc je sais que c'est un exemple extrêmement sensible. L'excision est souvent ça braque un peu, mais je pense que c'est un bon exemple de ce qu'on peut nommer le relativisme culturel dans le temps et dans l'espace.
Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut, avec quelques minutes d'avance, aller prendre la pause.
Oui, avec plaisir.
Merci à tous.
La pause.
À tout à l'heure.